Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et les mettez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous commençons donc sur le site internet dont je m'occupe, Dame Marie. Dans le commentaire sur l'Écriture Sainte, sur les Évangiles, le troisième fichier. Donc, c'est un fichier qui contient 5 chapitres, comme tous les autres fichiers, chapitres 11 à 15. Donc, vous pouvez aussi, si vous voulez, utiliser le fichier général qui comprend l'intégralité du cours. Mais je crois que c'est plus facile si vous y allez chapitre par chapitre. Donc, page 1 de ce troisième fichier, nous allons donc attaquer maintenant le chapitre 11 de Saint Matthieu, qui est un chapitre relativement court, puisqu'il ne fait que 30 versets. Il arriva que lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner, prêcher dans les villes. Or Jean, ayant appris dans sa prison les œuvres du Christ, envoya deux de ses disciples lui dire, « Êtes-vous celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus lui a répondu, il dit, « Allez raconter à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres sont évangélisés. Et bienheureux est celui pour qui je ne serai pas une occasion de scandale. » Donc, Saint Matthieu, chapitre 11, versets 1 à 6. Ce Jean dont il s'agit n'est pas évidemment l'apôtre Saint Jean, mais Saint Jean-Baptiste, le dernier, on peut dire, grand prophète de l'Ancien Testament, parce qu'il est né quelques mois avant notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui va achever de compléter en quelque sorte l'enseignement des prophéties qui annonçaient le Messie. Saint Jean-Baptiste était non seulement un modèle de prédicateur, mais également un modèle d'humilité. Et les pères de l'Église vont insister sur une phrase très connue de Saint Jean-Baptiste en parlant de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'évidemment, certains de ses disciples, qui vont devenir les premiers disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, donc ils vont lâcher en quelque sorte, abandonner Saint Jean-Baptiste pour aller vers notre Seigneur Jésus-Christ. Et évidemment, certainement, certains juifs ont dû demander à Saint Jean-Baptiste, mais ça ne vous fait rien de voir que la plupart de vos disciples vous abandonnent maintenant pour courir après notre Seigneur Jésus-Christ. Et Saint Jean-Baptiste de répondre, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Mais on voit bien deux choses par cette phrase. D'abord, l'importance fondamentale de la vertu d'humilité. Sans humilité, il n'y a pas de prédication possible. Sans humilité, impossible de charger la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième chose que l'on peut comprendre aussi par cette phrase, c'est le mal que fait l'orgueil. N'oublions pas que le péché de Lucifer, c'est le péché d'orgueil. Je ne servirai pas. Donc Lucifer dit, il faut que je croisse et que Dieu diminue. Et Saint Jean-Baptiste dit, il faut que Dieu croisse et que je diminue. Et donc c'est deux mondes complètement différents où je veux mettre notre Seigneur Jésus-Christ au centre de ma vie Il faut donc qu'il croisse et que je diminue. À ce moment-là, on a une société centrée sur Dieu, on a une âme centrée sur Dieu, une société qu'on appelle une société théocentrique, centrée sur Dieu, qui a été la société du Moyen-Âge chrétien pendant des siècles. Ou au contraire, eh bien, on met le bon Dieu dehors et on remplace le bon Dieu par nous-mêmes, par notre propre volonté. Et du coup, eh bien, c'est l'homme qui remplace Dieu. Et au lieu d'une société théocentrique centrée sur Dieu, théos en grec c'est Dieu, sera une société homocentrique, une société humaniste centrée sur l'homme. Et n'oublions pas que lorsqu'on met le bon Dieu dehors, non seulement l'homme va prendre la place, mais l'homme va lui-même être vite, rapidement chassé à son tour pour remplacer l'homme par le nouveau Dieu. Et ce nouveau Dieu, ce sera le démon lui-même. Donc toute la révolution est là. Il faut que l'homme croisse et que Dieu diminue. La contre-révolution, il faut que Dieu croisse et que l'homme diminue. Vous voyez, c'est quelque chose d'absolument fondamental à comprendre. Beaucoup de gens ne comprennent pas ces choses-là, c'est très dommage. Ils ne comprennent pas que la révolution dite française de 1789 est dans son essence même antichrétienne. Elle est antichrétienne parce que justement, c'est les deux étendards. Soit l'étendard de notre Seigneur Jésus-Christ, soit l'étendard de la révolution. L'étendard de la révolution, c'est liberté, égalité, fraternité. L'étendard de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pauvreté, chasteté, obéissance. Voilà ce que disent des pères sur ce sujet. Comme l'aurore s'efface, c'est à page 1 du troisième fichier, donc au chapitre 11 de Saint Matthieu, le troisième paragraphe. Comme l'aurore s'efface devant le soleil levant, ainsi Jean-Baptiste s'éclipse devant le Christ. Le prophète était l'étoile du matin, du soleil de justice. Non seulement il n'était pas envieux de la gloire montante du Christ devant la sienne qui diminuait, mais il s'en réjouissait. Il désirait diminuer pour que le Christ puisse se lever. Car il n'ambitionnait pas sa propre gloire, mais celle de Dieu et du Christ. Il faut donc qu'il croisse et que je diminue, disait-il. Et on voit bien ici que tout chrétien qui veut suivre notre Seigneur Jésus-Christ est obligé de faire de la place dans son âme. Il faut bien comprendre cela, notre âme a un volume déterminé par Dieu. Chaque âme est différente. Donc chaque âme a un volume déterminé par Dieu. Eh bien, c'est pareil pour notre intelligence d'ailleurs. Donc si notre âme est pleine de choses secondaires, il n'y a plus de place pour les choses principales. Si notre âme est pleine des choses du monde, il n'y a plus de place pour le bon Dieu. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par mettre une partie des choses du monde dehors pour laisser la place au bon Dieu. La loi, en effet, avait annoncé Jésus-Christ, prêché la rémission des péchés, promis le royaume des cieux, et Jean, Saint Jean-Baptiste, avait accompli toute cette œuvre de loi. Au moment donc où cesse la loi, qui, retenue captive par les péchés du peuple, était comme chargée de chaînes, renfermée dans un cachot, et ne pouvait pas par conséquent reconnaître le Christ, elle envoie considérer le spectacle que présente l'Évangile, afin que l'incrédulité soit forcée de reconnaître la vérité de la doctrine dans la vérité des faits. Donc c'est ce que Jésus va répondre pour Saint Jean. Donc il va montrer justement que les faits sont là. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres sont évangélisés. Il est évident que ce n'est pas simplement une chose, des maladies matérielles qu'il faut voir là, la cécité, etc. Quand il dit les aveugles voient, c'est surtout les aveugles spirituels. Ceux qui sont incapables de voir notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils gardent les yeux de leur âme complètement fermés. Les boiteux marchent, c'est tous ceux qui sont incapables de marcher droit parce que justement ils sont trop préoccupés des choses de ce monde, alors ils sont assis entre deux chaises. Les lépreux sont guéris, la lèpre a toujours été le symbole du péché mortel. Les sourds entendent, tous ceux qui ne voulaient pas entendre la loi de notre Seigneur Jésus-Christ vont maintenant l'entendre. Celui qui veut venir après moi, qu'il prenne sa croix, qu'il se renonce et qu'il me suive. Les morts ressuscitent, ça c'est le symbole de la résurrection spirituelle. Résurrection spirituelle, c'est-à-dire passage du péché mortel à l'absence de péché, par l'absolution sacerdotale. Les pauvres sont évangélisés, c'est-à-dire ceux qui avaient tout perdu sur le plan matériel vont pouvoir remplir leur âme avec des choses spirituelles bien plus importantes. Ce n'est donc point par ignorance que Saint Jean-Baptiste interroge, mais de la même manière que le Sauveur demandait en quel endroit le corps de Lazare avait été déposé afin de préparer ainsi à la fois ceux qui lui indiquaient le lieu de sa sépulture et de les rendre témoins de la résurrection d'un mort. C'est que comme prophète et par la nature même de sa mission prophétique, il annonce que la loi est pour ainsi dire ensevelie dans sa personne. Donc vous voyez l'exemple ici que nous donne de façon assez extraordinaire Saint Jean-Baptiste. Donc Saint Jean-Baptiste nous fait comprendre tout de suite l'importance fondamentale de la vertu d'humilité. Pas d'humilité, pas de possibilité de s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ. L'orgueil est en quelque sorte comme une muraille qui s'établit entre nous et Dieu. Vous voulez vous rapprocher du bon Dieu, il faut commencer par pratiquer l'humilité. Et la meilleure façon de pratiquer l'humilité, c'est très souvent, 9 fois sur 10, tout simplement de se préparer une bonne confession générale de toute sa vie, pour ceux qui ne sont pas confessés depuis des années, afin de retrouver, par l'humiliation de la confession, retrouver le chemin qui nous rapproche du bon Dieu. Alors, continuons donc ces avertissements, enfin ces phrases de notre Seigneur, Saint Matthieu, chapitre 11, versets 7 à 10. Lorsqu'il s'en allait, Jésus se mit à dire aux foules au sujet de Saint Jean-Baptiste, « Qu'êtes-vous allé voir dans le désert ? Un roseau agité par le vent ? Et qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu avec mollesse ? Voici, ceux qui sont vêtus avec mollesse habitent dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, est plus qu'un prophète. Car c'est de lui qu'il a été écrit, voici que devant votre face, j'envoie mon ange qui préparera la voie devant vous. Donc il est intéressant de voir ce que représente justement ces termes utilisés par notre Seigneur Jésus-Christ. Surtout le terme du roseau, le roseau agité par le vent. Donc qu'est-ce que ça représente ? Pardon. Voilà les explications données par les pères. Le roseau, aussitôt qu'il est effleuré par le moindre vent, plie de l'autre côté. C'est donc l'image de l'âme charnelle qui plie tour à tour sous le vent de la faveur ou de la contradiction des langues. Donc de même qu'un roseau, si vous voulez, va suivre le mouvement du vent, de même, l'âme charnelle devient esclave de ses passions, donc va suivre ses passions comme le roseau suit le vent. Saint Jean-Baptiste n'était donc pas un roseau agité par le vent, car aucune vicissitude des choses humaines ne pouvait fléchir la droiture de sa conduite. Donc, le Père dit aussi dans d'autres endroits que le roseau qui bouge à droite et à gauche, qui suit le vent, donc qui n'a pas de ligne de conduite propre, représente l'âme libérale, le libéralisme. Et c'est très vrai. Pourquoi ? Parce que le libéralisme, c'est le péché par lequel on donne les mêmes droits aux vrais et aux faux. Donc c'est en quelque sorte la conséquence du libéralisme, et c'est la politique du chien crevé au fil de l'eau, comme on dit vulgairement. C'est représenté par le roseau. Le roseau qui est incapable de résister au vent, sinon en suivant le moindre souffle. Donc c'est comme quelqu'un, si vous voulez, qui est tellement imprégné par les idées du monde moderne, qui n'a plus d'idées propres. L'idée personnelle, il ne peut plus suivre les idées de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il veut bien suivre notre Seigneur Jésus-Christ à condition de pouvoir garder l'amour du monde. Vous voyez, c'est comme tous ces gens qui veulent bien aller au ciel à condition d'avoir pu pendant 80-90 ans vraiment profiter à fond de toutes les joies du monde moderne. Après, on veut bien s'occuper du ciel. Rappelez-vous ce que Saint Rémy avait dit à Clovis au moment de son baptême, le baptême de la France en 496. Courbe la tête, fière sicambre, brûle ce que tu as adoré, adore ce que tu as brûlé. Donc il est évident que là, encore une fois, on voit bien les deux étendards. Nous suivions l'étendard du démon, l'étendard de liberté, égalité, fraternité. Nous allons maintenant suivre l'étendard de notre Seigneur Jésus-Christ, de pauvreté, chasteté, obéissance. Passons à la page 2, donc sur le troisième fichier. Voici donc le sens de ces paroles du Seigneur. Avez-vous été dans le désert pour voir un homme semblable à un roseau tour à tour agité par tous les vents, et dont l'esprit léger douterait maintenant de celui auquel il a rendu un éclatant témoignage ? Donc. Donc, on voit bien encore une fois ici la légèreté d'esprit, la légèreté d'esprit qui représente encore ce libéralisme. Chercher peut-être l'aiguillon de l'envie l'exciterait-il contre moi? Est-ce qu'il poursuivrait la vaine gloire dans ses prédications? Cherchera-t-il à en tirer profit? Pourquoi désirait-il les richesses pour s'asseoir à des tables splendidement servies, mais il se nourrit de sauterelles et de miel sauvage? Est-ce pour se vêtir avec mollesse? Son vêtement est fait avec des poils de chameau. C'est pour cela que le Seigneur ajoute, mais qu'êtes-vous allé voir un homme vêtu mollement? Et donc, tous ces caractéristiques ici, la mollesse, un homme vêtu avec mollesse. Voici, ceux qui sont vêtus avec mollesse habitent dans les maisons des rois. Les pères de l'Église et les saints en général qui ont expliqué les saintes Écritures, quand ils parlent de la mollesse, des hommes mous, ils désignent très souvent des hommes qui malheureusement suivent le vice contre nature. Les mollesses sont les efféminés, si vous voulez. La mollesse traduit le caractère efféminé. Et là, encore une fois, il faut absolument réagir, mes bien chers frères. S'il fallait donner une caractéristique de notre monde moderne, on pourrait vraiment dire que c'est un monde d'efféminés. Les efféminés sont devenus nos princes. Leurs princes seront des efféminés. Le prophète, si mes souvenirs sont exacts, c'est le prophète Isaïe qui déjà annonçait cela. Voyez. Donc, nous sommes devenus dans une société dans laquelle l'homme veut imiter la femme et la femme veut imiter l'homme. Alors tout se casse la figure justement pour ça. Pourquoi? Parce que la loi naturelle saute. Et donc il importe, au niveau d'éducation, de réagir, de ne pas éduquer nos enfants avec mollesse, comme s'ils étaient dans les maisons des rois, mais il faut au contraire éduquer nos enfants avec une certaine virilité, leur rendre cette virilité, de même qu'il faut éduquer les jeunes filles dans la féminité, il faut éduquer les hommes dans la virilité. Et les hommes, les jeunes hommes qui ne sont pas élevés en virilité mais avec féminité, vont très souvent avoir de grosses difficultés et des tentations contre nature qui vont les entraîner sur le chemin de l'enfer. Au contraire, la femme qui n'est pas élevée dans la féminité, mais dans une certaine forme de virilité qui n'est pas faite pour elle, elle va tomber dans l'orgueil. Voyez. Et là, encore une fois, il faut vraiment, vraiment réagir. Donnez-nous des hommes qui soient des hommes et des femmes qui soient des femmes. Voyez. Ça fait tellement plaisir de voir autour de nous, parfois encore dans nos fidèles, heureusement, il y en a encore quelques-uns, des jeunes garçons qui sont vraiment élevés comme des garçons, et des jeunes filles qui sont élevées comme des jeunes filles, parce que les hommes et les femmes sont différentes. On peut parler pendant des heures de savoir qui est supérieur, qui est inférieur, le problème n'est pas là pour du tout pour moi, chacun a un rôle déterminant. La femme, encore une fois, a été faite par le bon Dieu pour réagir d'abord avec son cœur, donc elle a toute la douceur, la fibre maternelle qui est la fibre même qui fait sa composition de nature. Elle a une nature maternelle parce qu'elle est femme. Et donc elle doit réagir premièrement avec son cœur pour amener justement cette douceur dans le foyer. Alors qu'au contraire, l'homme est supposé utiliser non pas son cœur en premier comme son épouse, mais son intelligence en premier. À ce moment-là, les deux choses se complètent. La femme amène la douceur et l'homme amène la fermeté. L'homme amène la virilité, la femme amène la féminité, et à ce moment-là, les choses suivent la loi de nature. Sinon, tout s'écroule, évidemment. Alors, peut-être que nous devons faire un examen de conscience avec ces phrases très fortes sur Saint Jean. Donc, il faut qu'il croise et que je diminue. Est-ce que par hasard, je ne dois pas, moi aussi, m'arranger pour augmenter en moi la présence du bon Dieu et diminuer en moi ma volonté propre? Première chose qu'il faut faire pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ, c'est mettre dans sa poche sa volonté propre avec le mouchoir par-dessus. Bon, est-ce que je suis éduqué? Est-ce que j'éduque mes enfants? Est-ce que je veux être éduqué moi-même avec mollesse, comme les mous qui habitent dans les maisons des rois? Ou est-ce qu'au contraire, je vais être présenté, comme Saint Jean-Baptiste, et toute la force de sa prédication? Autre texte de Saint Jean Chrysostome, page 2, deuxième paragraphe. Dans un autre sens, en allant dans le désert, Vous avez prouvé par votre empressement que Jean n'était pas semblable à un roseau mobile. Et on ne peut dire que Jean, ferme, inébranlable de sa nature, est devenu inconstant, s'abandonnant à une vie de plaisir. Car de même qu'un homme est naturellement colère et qu'un autre le devient par suite de longues souffrances, ainsi il en est qui sont inconstants par nature, mais d'autres qui le deviennent en se livrant à leur passion. Vous voyez, c'est le symbole du roseau. Le roseau représente l'inconstance. Le roseau est incapable de pointer dans la même direction pendant une longue période de temps. Dès qu'il y a du vent, ici le vent. Donc, ça représente l'inconstance du monde moderne. Saint Jean-Baptiste nous préparera la voie où nous devons marcher, c'est-à-dire qu'il nous rendra les cœurs accessibles à Dieu en nous prêchant la pénitence et nous donnant le baptême. Bon, certes, Saint Jean-Baptiste ne pouvait pas donner le sacrement de baptême puisque notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas encore là. Donc il va donner le baptême de pénitence, d'exciter en quelque sorte les cœurs des Hébreux à la pénitence. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui, en se faisant baptiser dans le Jourdain par Saint Jean-Baptiste, va instituer le sacrement de baptême. Dans le sens mystique, le désert est le lieu qui est privé de la présence du Saint-Esprit, que Dieu n'habite en aucune façon. Là, il y a d'autres explications qui sont très belles des pères de l'Église. Ils n'ont pas tous les mêmes explications, entre autres sur le roseau. Le roseau, c'est l'homme tout resplendissant de la gloire du monde, c'est-à-dire par la futilité de sa vie, mais qui ne porte en lui-même aucun fruit de vérité. Ses dehors sont agréables, mais il est nul à l'intérieur. Le moindre vent, c'est-à-dire le moindre souffle des esprits immondes l'agite, il n'a aucune consistance, aucune fermeté, aucune force intérieure. Mais ça, c'est la définition du monde moderne. C'est la définition, surtout malheureusement, de la plupart des jeunes du monde moderne. Aucune consistance, aucune fermeté, aucune force intérieure. Ce sont des mots. Vous voyez, c'était Mademoiselle Lusquenette qui faisait remarquer qu'il fallait trois choses pour pouvoir vraiment éduquer les enfants. Il fallait la force, bien sûr, la douceur et aussi les convictions. La force, c'est surtout le côté du père, la douceur qui venait de la mère, et l'ensemble de ces deux choses, force et douceur, travaillant ensemble, allaient amener aux convictions. Donnons à nos enfants des convictions religieuses. Et quel dommage de voir que nos enfants sont élevés la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps sans conviction, que les seuls jeunes maintenant qui ont des convictions dans le monde moderne, la plupart du temps sont des musulmans ou des gens d'une fausse religion. Vous voyez, il nous faut au contraire vraiment former nos enfants pour pouvoir leur donner ces trois choses, douceur, force et conviction, ce qui leur permettra à ce moment-là d'aller de l'avant dans le monde moderne sans se faire contaminer par les idées du monde moderne. Et vous voyez, ces trois choses ne peuvent être données que si la maman amène ce qu'elle doit amener comme femme et si le papa amène ce qu'il doit amener comme papa, comme homme. Donc l'homme donne la force, la femme la douceur, et les deux choses ensemble vont permettre la conviction. Donc le roseau représente justement tout ça, représente la futilité, le manque de consistance. Donc le vêtement que portent les gens du monde moderne, ici le texte utilise le mot de ceux qui sont vêtus avec mollesse. Le vêtement représente, disent les pères, le corps dont l'âme est revêtue, que le luxe et la volupté amollissent. Donc c'est cet amollissement des vêtements, c'est le texte du verset 8 du chapitre 11 de Saint Matthieu. Qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu avec mollesse? Ceux qui sont vêtus avec mollesse habitent dans les maisons des rois. Alors, qu'est-ce que veut dire justement cette mollesse? Mais cette mollesse représente le luxe de la volupté. Le luxe et la volupté des gens qui sont esclaves de leurs passions. Les rois, disent les pères, sont l'image des anges prévaricateurs, car ils sont les puissants du siècle et les maîtres du monde. Ceux donc qui sont vêtus avec mollesse habitent dans les maisons des rois, c'est-à-dire que ceux dont le corps est amolli, a perdu sa force au sein des voluptés, deviennent l'habitation des démons. Donc le manque de consistance, la mollesse, l'absence de force, si vous voulez, dans l'éducation, va laisser libre cours aux voluptés, et ce qui fait que le démon va venir habiter dans cette maison absolument comme chez lui, vous voyez. il faut donner un minimum de force dans l'éducation. J'ai vu, ça a été très très pénible pour moi, en apostolat comme prêtre, à plusieurs reprises, des parents, de bonne foi, je ne dis pas qu'ils le faisaient exprès, ils ne s'en rendaient pas compte, les pauvres, mais qui éduquaient leur garçon de 12-13 ans, donc en préadolescence, exactement comme si c'était des filles. Donc ils les laissaient avoir, si vous voulez, choisir par eux-mêmes des vêtements, choisir leur marque de vêtements, etc. Si j'avais dit à ma maman, quand j'avais 13 ans, que je voulais porter telle chemise de telle marque, je me serais fait recevoir, tiens, ça aurait vite été réglé. Hein? Donc attention, si vous vous rendez compte, chers parents qui m'écoutez, que vous avez élevé vos enfants avec un manque de mollesse, avec un manque de force, eh bien il faut rattraper les choses. Attention, quand je parle de force, ça ne veut pas dire brutalité, ça ne veut pas dire cruauté. Et quand je parle de douceur, c'est pas la faiblesse. Oui, douceur et force, c'est la vertu de douceur, la vertu de force. La cruauté, c'est pas une vertu. Le libéralisme, c'est pas une vertu non plus. Donc il faut une douceur forte et une force douce. Oui, ça semble facile à dire, c'est pas facile à mettre en pratique. La maman doit donner une douceur qui sera forte et le papa doit donner une force qui va être douce. D'où la nécessité pour les parents de parler avec leurs enfants, surtout avec leurs garçons. Vous voyez, il y a quelques mois ici, j'habite dans un petit village complètement perdu du Tarn, qui s'appelle Padiès, près de 35 km au nord-est d'Albi. C'est même pas un village, c'est des groupes de hameaux en fait. J'habite dans un des hameaux qui s'appelle La Salle. Mais tous les ans, au mois de juillet, je crois, il y a une grande fête grande fête du village. Il y a 500 ou 600 personnes qui viennent. Mais c'est des gens qui n'habitent plus sur le village. Sur le village, il n'y a plus que des paysans, déjà d'un certain âge en général, et très très peu de jeunes, malheureusement. Mais pour la fête du village, tous les anciens du village viennent, et beaucoup de jeunes qui ont des parents qui étaient du village, donc viennent aussi, et il y a 3 jours de réjouissance de barbare, il n'y a pas d'autre mot à utiliser, il y a une musique de sauvage pendant 3 jours, et dès que la première, ça commence en général le vendredi soir, et ça se termine le dimanche après-midi, et après 1 heure ou 2 heures de fête, ça y est, les jeunes sont déjà ivres, mais ivres à vomir, tellement ils sont ivres, ils savent plus ce qu'ils disent, plus ce qu'ils font. La première année où j'étais là, ils étaient au bout de deux heures de boum boum, ils étaient déjà sous mes fenêtres en train de hurler des blasphèmes contre le prêtre en soutane. Vous voyez, et donc la plupart des jeunes, pratiquement tous, pas tous, mais presque tous ces jeunes, c'est ça, c'est boire, s'enivrer et se donner par cette emprise de la boisson une espèce de force, fausse idée de force. Quant aux filles, aux jeunes filles du village, ou l'ancienne du village, elles étaient toutes des prostituées en chasse, il n'y a pas d'autre mot. Toutes habillées comme des prostituées, se prélassant avec des façons de vivre de prostituées, non seulement habillées comme des prostituées, mais agissant comme des prostituées. C'était épouvantable. Chacun cherchait leur mec, comme elle disait. Mais c'était épouvantable. C'est là, quand on voyait des choses comme ça, moi je fermais toutes les fenêtres à fond, puis je m'enterrais chez moi, je quittais même la maison le soir quand il y avait trop de bruit, parce que c'était impossible. C'est là où on se rend compte à quel point on est arrivé dans une fin de civilisation. Mais une fin de civilisation, c'est même plus une civilisation. C'est le pape Saint Pédis qui disait il n'y a pas le choix entre la civilisation chrétienne et d'autres civilisations. Il disait il y a le choix entre la civilisation chrétienne ou pas de civilisation du tout. Il est évident que quand je voyais ces jeunes garçons ivres et ces filles en train de courir les garçons en longueur de journée et de nuit, eh bien je me disais comment pouvons-nous, avec des éléments pareils, reconstruire une France qui tienne la route. Même pas une France catholique, simplement une France qui tienne un peu la route. Comment voulez-vous faire ça? Et on a les chefs qu'on mérite. Si nous avons les chefs politiques que nous avons actuellement, qui sont justement les fils les enfants de ces molassons et de ces libéraux, eh bien, je pense que c'est un châtiment du bon Dieu et on ne l'a pas volé. On ne l'a pas volé. Et donc là, cette phrase des pères me semble très, très, très... Je répète, il y a deux phrases qui me semblent très importantes. Là, il faut les méditer. Hein. Le vêtement représente le corps dont l'âme est revêtue, que le luxe et la volupté amollissent. Donc le luxe, l'esprit de luxe et l'esprit, l'esprit de lucre, l'esprit d'impureté amollissent les caractères. Ceux dont les corps, le corps est amolli, disent les pères, et a perdu sa force au sein des voluptés, deviennent l'habitation des démons. Donc lorsque ces jeunes se mettent à boire comme des trous, comme ces jeunes filles qui agissent comme des prostituées, eh bien, deviennent l'habitation des démons. Le démon rentre et fait ce qu'il veut chez lui, et justement, chez eux, parce qu'il est devenu chez lui. Leur maison est devenue sa maison. Saint Grégoire le Grand. On peut dire encore que Jean ne fut pas vêtu avec mollesse, parce qu'il n'a point encouragé par un langage flatteur les vices des pécheurs, mais qu'il les a pressés de ses réprimandes énergiques et de ses reproches les plus sévères jusqu'à les appeler race de vipères. Des termes utilisés par Saint Jean-Baptiste qui ne sont pas piqués les vers. Hein. Quand il parlait aux pharisiens, il les appelait race de vipères ou sépulcre blanchi, ça laisse rêveur. Je n'aurais jamais osé, et je n'oserais toujours pas aujourd'hui appeler mes fidèles race de vipères ou sépulcre blanchi, ou même à des gens pendant une retraite, je n'oserais pas les traiter comme ça quand même, voyez. Mais cette mollesse, justement, c'est une caractéristique du monde moderne. Hein. Les gens du monde moderne, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des oreillers sous les coudes. Les oreillers sous les coudes. Je ne sais plus de qui vient cette expression, mais des oreillers sous les coudes. Je ne sais pas si ce n'est pas une phrase du livre de la sagesse. Des oreillers sous les coudes, justement, pour empêcher les gens de réagir et de se sauver. Tropologiquement, sens tropologique, je vous rappelle, c'est sens moral. C'est-à-dire, le texte de l'Écriture sainte nous explique ce que nous devons faire. Un roseau est un homme léger, inconstant, qui virevolte. Encore une fois, comme le roseau qui est incapable de pointer une direction précise. Un jour, poussé par ceux qui le flattent, il affirme quelque chose, mais un autre jour, poussé cette fois par des contradicteurs, il le nie comme un roseau poussé dans différentes directions par différents vents. Là, on croirait une explication de nos hommes politiques modernes en France. Pratiquement tous les hommes politiques sont comme ça. Ils suivent le courant. Ils suivent la politique du chien crevé au fil de l'eau. Pour avoir des voix, pour qu'on vote pour eux, ils sont capables de tuer père et mère. Pour avoir des voix, ils sont capables de vendre leurs parents en esclavage. C'est du n'importe quoi. C'est vraiment triste, mais c'est exactement ce qui se passe dans le monde moderne. On sent que nos politiciens, malheureusement de droite comme de gauche, à peu de choses près, n'ont plus aucune conviction personnelle. Donc ils n'ont plus du tout ces convictions dont parlait Mademoiselle Connette. Alors ils suivent le courant. S'il faut être de droite pour avoir des voix, bon, on est de droite. S'il faut être de gauche pour avoir des voix, bon, on est de gauche. De toute façon, vous savez, ne faites pas trop d'illusions. Hein. Ces termes de droite ou de gauche ne veulent absolument plus rien dire aujourd'hui. N'oublions pas que un des crimes de la France, le péché d'avortement, a été passé légalement par un homme qui était censé être de droite. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui a fait passer l'avortement en France. C'est Valéry Giscard d'Estaing, homme dit de droite, qui a fait passer la pilule aux mineurs sans consentement des parents. Oui, moi, ça me laisse rêver. Il y a quelque temps, Valéry Giscard d'Estaing a dit son regret d'avoir fait passer certaines lois permissives pour déjà les migrants de son époque. En faisant le regroupement familial. Il a regretté, il a dit que c'était une erreur de son quinquennat. Moi, j'aimerais bien que M. Valéry Giscard d'Estaing ait le courage de dire la plus grande erreur de mon quinquennat, c'est d'avoir fait passer l'avortement. Je suis responsable des millions d'enfants qui ont été assassinés dans le ventre de leur mère par ce péché d'avortement. Et n'oublions pas ce péché d'avortement comme ces péchés de mollesse, des péchés de contre-nature péchés des sodomites, eh bien, sont des péchés que l'Église catholique classe ces deux péchés, l'avortement, donc le meurtre de l'innocent, et la sodomie, dans la catégorie des péchés qui crient vengeance contre le ciel. C'est terrible. C'est quelqu'un, donc, le roseau, c'est quelqu'un qui n'a pas de vérité, pas de vertu, pas de consistance, aucune force. Il n'a pas de fruits, pas de bonnes œuvres à montrer, car un roseau ne porte pas de fruits. Il représente donc celui qui se réconforte avec les plaisirs fluctuants du monde. Le roseau est sec, pousse dans les eaux. On l'appelle pour cette raison l'algue de rivière. Il signifie aussi, ouais, les pères sont pas tendres avec la signification de ce mot roseau. Je vous rappelle que c'est l'explication du chapitre 11 de saint Matthieu, verset 7. Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau agité par le vent? Donc ce roseau, disent les pères, représente aussi l'esprit charnel, alors que le Christ est le bon roseau prophétisé par Isaïe. Le roseau secoué ne cassera pas, car il raffermit la chair secouée par le péché, par le pouvoir de sa résurrection. Le bon roseau est donc la chair du Christ qui cloue la tête du serpent et les attractions de la cupidité mondaine au gibet de la croix. Donc il y a le choix entre le roseau du monde moderne, qui est l'arbre du monde moderne. S'il fallait définir le monde moderne, on pourrait prendre comme exemple du monde moderne le roseau, donc l'absence totale de conviction, l'absence totale de consistance, l'esclavage des passions, l'inconstance absolument constante, les voluptés, l'habitation des démons, etc. Donc c'est le choix entre l'inconstance, si vous voulez, du monde moderne, le libéralisme du monde moderne qui veut donner les mêmes droits aux vrais et aux faux, ça c'est le roseau du monde moderne, ou de l'autre côté, si vous voulez, avec l'autre armée, l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pas un roseau, c'est un arbre. Et cet arbre, c'est l'arbre de la croix. Donc en utilisant des termes plus modernes, on peut dire que l'esprit du monde, c'est le roseau, et l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le chêne de la croix. D'accord ? C'est une très belle phrase en bas de la page 2. Le bon roseau est donc la chair du Christ qui cloue la tête du serpent et les attractions de la cupidité mondaine au gibet de la croix. Et comme il faut méditer ces choses-là, ayez dans vos maisons, je vous en supplie, mes bien chers frères, ayez ce signe de la croix. J'en parle souvent en sermon parce que ça me semble être des choses tellement importantes aujourd'hui d'avoir ces trois symboles tellement importants aujourd'hui. J'en parle très souvent en sermon quand je prêche les exercices de Saint-Ignace. Le premier symbole, c'est la croix. Saint-Sacrifice de la Messe, la croix de la rédemption. Ayez fièrement la croix de notre Seigneur Jésus-Christ dans chacune des pièces de votre maison. Le deuxième symbole, évidemment, extrêmement important, et c'est l'image de la Très Sainte Vierge Marie, la Mère du Christ. Forte comme une armée rangée en bataille, mais en même temps, cette douceur extraordinaire de Mère. Donc, ayez l'image de la Sainte Vierge. Et que tous les enfants aient à cœur d'avoir dans leur chambre, mieux leur gentille petite pagaille qui règne en général dans les chambres des jeunes, eh bien qu'ils aient justement l'image de la Sainte Vierge. Et le troisième symbole que je voudrais voir dans toutes les familles, c'est l'image du pape. J'ai dit du pape, j'ai pas dit de Bergoglio. Donc ayez dans votre maison l'image, par exemple, de Saint Pie X, l'image de Saint Pie V. Ici, dans cette maison où j'habite, j'ai une très belle image, un buste magnifique du pape Pie IX. Le pape Pie IX est un pape pour lequel j'ai une grande vénération. C'est certainement un des plus grands papes de l'histoire de l'Église. C'est le pape d'Issylacus, attention, c'est le pape de la condamnation de la liberté de conscience. Il faut voir ce qu'écrivait, ce qu'il disait le pape Pie IX contre le libéralisme, c'est extraordinaire. Voyons donc, ayez dans vos familles, mes bien chers frères, la croix, l'image de la Sainte Vierge, l'image du pape, d'un vrai pape. Et il faut donner à nos enfants des choses, des gens qu'ils puissent admirer. Vous voyez, il y a peu, j'écoutais une conférence de presse de Poutine. Poutine, chef de la Russie. Bon, je ne suis pas un inconditionnel de Poutine, mais j'ai quand même un respect pour cet homme, bien qu'il soit orthodoxe, il lui manque certaines choses qu'il n'a pas comprises. Mais quand j'entendais Poutine répondre à ces questions sans papier, d'ailleurs, questions de ces jeunes, ces moins jeunes qui lui posaient des questions qui étaient parfois assez difficiles à répondre, il répondait avec une telle noblesse que je me disais, je comprends qu'on puisse admirer un chef politique comme celui-là. Et que les Russes soient tellement fiers d'être dirigés par Poutine. Puis après, j'ai regardé, on m'a envoyé un texte, un dernier discours pour les changements politiques des ministres en France par Macron. Mais je me posais la question quand j'entendais Macron et son blablatage, j'ai pas d'autres mots, je me disais, comment voulez-vous qu'un jeune puisse admirer un type pareil? On peut avoir de l'admiration pour Poutine, mais comment voulez-vous avoir de l'admiration pour Macron? Donnez à vos enfants des modèles qu'ils puissent admirer. Vous voyez, qu'ils puissent admirer. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention pour les jeunes qui m'écoutent. Il y en a qui le font, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui écoutent les cours, mais pour les jeunes qui m'écoutent, ayez dans vos maisons, dans vos chambres, vous avez quand même une certaine liberté un petit peu de mettre certaines choses, je suppose, sur les murs, mettez des images d'hommes et de femmes que vous pouvez vraiment admirer. Vous savez, vous devez avoir l'image du crucifix. C'est pour ça que vous devez avoir l'image d'un vrai pape ou l'image de la très sainte Vierge Marie. Vous voyez, les gens, vous pouvez admirer. Mais n'allez pas mettre comme poster sur vos murs l'image d'un sportif ou d'une vedette de cinéma ou de gens comme ça. Il y a des grandes âmes que vous pouvez admirer. Il y en a beaucoup en France, c'est pas ça qui manque. N'oublions pas que la France, c'est la France de Saint-Louis, c'est la France de Saint-Jean d'Arc, c'est la France de Charlemagne. Alors là, oui, là, vous avez des gens admirés. Qu'est-ce que vous voulez? Quand vous voyez des gamins de 15 ans qui ont dans leur chambre des images de Marilyn Monroe, il n'y a pas longtemps j'ai vu ça, bon, ou de Schwarzenegger, bon, ça laisse rêveur. Comment voulez-vous que des gars comme ça puissent être des modèles? Alors évidemment, on fait du n'importe quoi. Voilà. Donc rappelez-vous cette phrase, le bon roseau. Et donc la chair du Christ qui coule la tête du serpent, les attractions de la cupidité mondaine au gibet de la croix. Chapitre 11, verset 11, en bas de la page 2, sur le troisième fichier. En vérité, je vous le dis, parmi les enfants des femmes, il n'en est pas surgi de plus grand que Jean-Baptiste, mais celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. En disant « Nul d'entre les enfants des femmes n'a été plus grand que Jean-Baptiste », il ne le place pas précisément au-dessus des patriarches, des prophètes et des autres hommes, mais il l'est. Notre Seigneur les met simplement sur le même rang, car lorsque les autres ne sont pas plus grands que lui, il ne s'en suit pas qu'il soit plus grand qu'eux. Et Saint Jérôme nous explique donc que nous entendons, pour nous, dit-il, nous entendons tout simplement ces paroles en ce sens que tout homme juste qui est déjà réuni au Seigneur est plus grand que celui qui se trouve encore au milieu des combats. Mais l'homme qui suit notre Seigneur Jésus-Christ devient un géant. Oui. Et je crois que c'est Bossuet qui disait que l'homme devient grand quand il sait s'agenouiller. Et c'est très vrai. L'homme devient grand quand il sait s'agenouiller. L'homme moderne est incapable de s'agenouiller et donc l'homme moderne devient Tom Pouce, littéralement. Un minus. L'homme, au contraire, qui est capable de s'agenouiller devant le bon Dieu pour prendre la force de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, devient immédiatement un géant, un héros. Et il est important de comprendre toutes ces choses. Car il y a une grande différence, dit Saint Jérôme, entre celui qui a déjà reçu la couronne de la victoire et celui qui soutient encore sur le champ de bataille tous les efforts de ses ennemis. Donc il faut vraiment demander au bon Dieu ce don de force. Je crois que Bon, tous les dons du Saint-Esprit sont importants. Les sept dons du Saint-Esprit sont très importants et sont les sept voiles de notre bateau, comme on dit. Mais peut-être que le don le plus important, c'est le don de force actuellement. Oui, don de force, surtout pour les garçons. Et peut-être pour les jeunes filles, le don de piété. Voyez, parce que justement, la jeune fille étant le cœur va devenir le cœur de la famille, elle doit amener cette piété dans la famille. Mère de famille qui m'écoutez sur Internet, apprenez à vos enfants à prier. Faites ce que vous voulez, mais arrangez-vous pour que vos enfants aiment prier. Et si vos enfants aiment prier, ils deviendront grands. Et pour les papas, apprenez à vos enfants justement à devenir des hommes forts, des hommes qui se battent. Vous voyez ? Et là, il y a des notes des pères de l'Église sur Saint Jean-Baptiste. Vous savez que Saint Jean-Baptiste était un des plus grands saints du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge chrétien, j'accepte évidemment l'attention de Vierge Marie, hein, qui est hors concours littéralement. Mais dans le Moyen-Âge chrétien, surtout en Europe, surtout en France, les deux grands saints du Moyen-Âge, c'était d'abord Saint Jean-Baptiste et l'autre c'était Sainte Marie-Madeleine. Saint Jean-Baptiste, le grand prédicateur, le dernier prédicateur de notre Seigneur Jésus-Christ, et Sainte Marie-Madeleine, la pécheresse convertie. Là, tout le monde pouvait se retrouver dans ces deux grands saints. Saint Jean-Baptiste était un miracle vivant par sa conception, dans le sein de sa mère, et Sainte Élisabeth, et par sa naissance et par sa vie angélique. Par sa conception d'abord, parce que ses parents étaient fort âgés, c'est page 3. Dans le sein de sa mère, parce qu'il reconnut le Christ venu la visiter et qu'il le salua et l'adora. Vous savez que la tradition de l'Église dit que Saint Jean-Baptiste est né, a été conçu avec le péché originel, mais a été purifié du péché originel dans le sein de sa mère, au moment précis où notre Seigneur Vierge Marie est venue se présenter à Sainte Élisabeth. Alors que la Sainte Vierge Marie, elle est immaculée conception, c'est-à-dire qu'elle est conçue sans le péché originel, ce qui n'est pas le cas pour Saint Jean-Baptiste. Par sa naissance, en communiquant au monde une joie universelle. Par sa circoncision, en rendant à son père l'usage de la parole. Saint Joachim. Je me trompe là, je raconte n'importe quoi, excusez-moi, je mélange tout là. Donc, par sa naissance, je reprends le texte. Saint Jean-Baptiste, par sa conception, donc, un exemple par sa conception, car ses parents étaient fort âgés. Dans le sein de sa mère, parce qu'il reconnut le Christ venu le visiter et qu'il le salua et l'adora. Par sa naissance, en communiquant au monde une joie universelle. Par sa circoncision, en rendant à son père l'usage de la parole. Et par sa vie angélique dans le désert dans lequel il vécut comme un ange toute sa vie. Et donc, vraiment, on voit que pour les pères de l'Église, Saint Jean-Baptiste n'est plus un ange qu'un homme, littéralement, vous voyez. Ainsi, conclusion des pères, porta-t-il en plus de la couronne de docteur, celle de la virginité, du prophète et du martyr. Il dit tout à la fois. Docteur par son enseignement, virginité par sa pureté, prophète en annonçant notre Seigneur Jésus-Christ, et martyr en étant décapité par Hérode. Vous voyez. Donc, il faut méditer, vous voyez, sur toutes ces belles phrases des pères. J'ai déjà donné ce conseil, je me permets de le redonner après. Vous finissez un chapitre, on finit ensemble un chapitre d'explication des pères de l'Église, sur un chapitre de la Sainte Écriture, un chapitre des Évangiles. Donc, une fois que c'est fini, relisez les pages du polycopie qui correspond à ce chapitre que nous venons d'expliquer. À ce moment-là, j'espère que ça sera plus facile pour vous de comprendre. Page 3, Saint Matthieu, chapitre 12, 13, 14 et 15. Or, depuis les jours de Jean-Baptiste, jusqu'à maintenant, le royaume des cieux se prend par violence. Ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez comprendre, il est lui-même cet Élie qui doit venir. Que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende. Donc là, il y a cette phrase importante sur le qui n'est pas aimé du tout par les modernistes. Le royaume des cieux se prend par violence et ce sont les violents qui s'en emparent. De quelle violence parle-t-il? Bien, cette violence correspond au don de force. La violence, c'est quoi? C'est, il faut arracher, s'arracher aux chaînes de la concupiscence. Les trois concupiscences, la chair, concupiscence des yeux, concupiscence de l'orgueil et de la vie. Donc, il faut s'arracher à ces chaînes. Et c'est, le fait de s'arracher de ces chaînes, la possibilité de s'arracher de ces chaînes, c'est un acte qui est violent par lui-même. On ne va pas au ciel en tapis roulant. On ne va pas au ciel sur en ascenseur, mes bien chers frères. C'est ainsi que le royaume des cieux souffre violence et que le violent le ravisse, parce que la gloire qui était due au patriarche d'Israël, que les prophètes avaient annoncé que Jésus-Christ est venu offrir, a été enlevée et ravie par la foi des nations. Donc cette violence, si vous voulez, c'est aussi le symbole de la croix. La croix est quelque chose de violent. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas un Dieu en sucre d'orge, hein, attention. Saint Jean Chrysostome. Ceux qui s'empressent de se convertir sont ceux qui ravissent le royaume des cieux, le royaume de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Ajoutez que l'austérité de la vie et la sévérité des principes sont les mêmes dans Élie et dans Saint Jean-Baptiste. Ils habitaient tous les deux dans le désert, tous les deux portaient une ceinture de poils de chameau. Le premier fut obligé de fuir parce qu'il avait reproché à Achab et à Jézabel leur impiété. Le second, la tête tranchée, parce qu'il avait condamné l'union criminelle d'Hérode et d'Hérodiade. Hérodiade, c'était la femme légitime de Philippe, le frère d'Hérode. Donc le royaume des cieux est pris par violence quand le Christ est rejeté par les membres de sa propre maison, mais adoré et aimé par les gentils. Pour atteindre ce royaume, les hommes du monde doivent se faire violence en cultivant les vertus de repentance, de pauvreté, de continence, de mortification. Cette violence, c'est la violence de la phrase « Celui qui veut venir après moi, qu'il prenne un oreiller ?» Non, c'est pas ça. Qu'il fasse une bonne sieste ? Non, c'est pas ça. Celui qui veut venir après moi, qu'il prenne sa croix, qu'il se renonce à lui-même et qu'il me suive. Donc trois actes violents. Prendre sa foi, sa croix, pardon, la croix de notre Seigneur, la charger, c'est déjà violence en tant que telle. Se renoncer à soi-même, renoncer à sa volonté propre et suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Nous faisons violence au Seigneur, non pas en l'obligeant, mais en le suppliant avec des larmes, non en le blasphémant par orgueil, mais en se repentant avec humilité. Ô sainte violence, qui n'est pas punie avec indignation, mais acceptée par miséricorde, sainte violence qui tire la bonté de celui qui souffre violence et qui contribue au fait de celui qui l'a fait. Au profit, pardon, qui contribue au profit, pardon, de celui qui l'a fait. Et il y a une virilité, encore une fois, dans l'éducation catholique. Autant, on peut dire que le monde moderne est, est caractérisé par une espèce de mollesse générale, autant l'éducation catholique, c'est l'éducation des forts. L'éducation des violents qui prennent notre Seigneur Jésus-Christ à bras le corps. Qui prennent la croix notre Seigneur Jésus-Christ à bras le corps. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Celui qui pratique cette violence sera reconnu comme le plus religieux par le Christ. Car quand cette violence est acceptée, la religion progresse. Nous venons à lui sur le chemin car il est vraiment la voie. Et comme des voleurs, nous le dépouillons de ce qu'il est, voulant prendre son royaume, sa richesse et sa vie. Mais il est si riche et libéral qu'il ne résiste pas. Même après qu'il ait tout donné, il est toujours le possesseur de tout. Oui, il faut, je crois, méditer là-dessus. Il faut que les pères de famille méditent. Qu'est-ce que je dois faire pour donner à mes garçons surtout cette virilité? Oui. Nous l'attaquons non pas avec des épées, des bâtons, des pierres, mais avec la douceur, les bonnes œuvres et la chasteté. Donc la douceur, les bonnes œuvres, la chasteté représentent les armes de celui qui se bat au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont là les armes de notre foi, avec lesquelles nous nous efforçons de nous battre. Mais, disent les pères, avant d'utiliser ces armes en faisant violence, il nous faut d'abord exercer une certaine violence sur notre propre corps, en faisant la guerre aux vices de nos membres. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si on est esclave de ses passions, comment voulez-vous être un bon soldat dans l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est pas possible. Si on veut obtenir la récompense des vaillants, il faut commencer par faire la guerre aux vices de nos membres. car pour saisir le royaume du Seigneur, nous devons régner chez nous. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ dit que le royaume des cieux se prend par violence et que ce sont les violents qui s'en emparent. Une phrase importante qui n'est pas souvent expliquée, malheureusement, c'est dommage. Dieu veut que nous atteignions avec les affections spirituelles ce que nous ne pouvons pas gravir avec des pieds corporels. Hein, donc, il importe, vous voyez, de faire l'examen de soi-même pour connaître nos faiblesses. Le soldat doit connaître ses faiblesses. C'est pour ça que le soldat doit s'entraîner. Et notre Seigneur Jésus-Christ a une armée de soldats. Et donc, nous sommes les armées dans l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons connaître nos faiblesses, apprendre à découvrir nos faiblesses pour pouvoir justement colmater les brèches dans les murs qui protègent notre âme. Vous voyez, donc, pour ça qu'il faut connaître son défaut particulier. Saint Ignace de Loyola en parle beaucoup dans les exercices Saint Ignace. Il dit qu'il faut connaître soi-même. La chose la plus importante pour un soldat d'élite, c'est d'avoir la connaissance de soi-même. Malheur à celui qui ne se connaît pas lui-même et qui se laisse aller, si vous voulez, à faire du n'importe quoi parce qu'il n'a pas de connaissance de lui-même. Donc demandons au bon Dieu cette grâce de la connaissance de soi-même pour pouvoir, une des meilleures choses à faire pour connaître soi-même, pour avoir la connaissance de soi-même, c'est connaître son défaut particulier. Et pour connaître son défaut particulier, ça c'est de la bonne psychologie, j'en parle très souvent quand je prêche l'exercice Saint-Ignace, pour connaître soi-même, il faut connaître son défaut particulier. Et pour connaître son défaut particulier, il faut connaître son tempérament. Les premières choses à faire, connaître son tempérament. Est-ce que vous êtes un mélancolique? Est-ce que vous êtes un phlegmatique? Est-ce que vous êtes un sanguin? Ou est-ce que vous êtes un colérique? Ou est-ce que vous êtes un mélange des deux, ou des trois, ou des quatre? On dit que notre Seigneur Jésus-Christ devait avoir le parfait mélange des quatre tempéraments. C'est sans doute vrai. Il y a eu des saints qui étaient des colériques, des saints qui étaient des sanguins, des saints qui étaient des mélancoliques et des saints qui étaient des phlegmatiques. Mais ils ont tous lutté, tous, contre les mauvais côtés de leur tempérament. Notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas de mauvais côté dans les quatre tempéraments qu'il avait, parce que notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas le péché originel, c'est évident. Mais nous, on l'a. Vous voyez ? Donc il faut connaître ces choses-là et bien étudier notre tempérament. Surtout pour les gens qui se préparent au mariage. J'en parle souvent dans les préparations au mariage. Connaissez votre tempérament avant de vous marier et connaissez le tempérament réel de celui qui va devenir votre époux ou votre épouse. Croyez-moi, les jeunes, quand ils sont fiancés, ils font très attention, c'est ça le drame, ils font très attention à cacher leurs défauts, à cacher leurs défauts particuliers. Alors du coup, madame va découvrir les défauts particuliers de son mari au bout de 3 ans de mariage, c'est un peu tard. Elle ne va pas découvrir le défaut particulier du mari pendant les mois qui précèdent le mariage, quand ils sont fiancés, absolument pas. Elle ne va pas le découvrir pendant la lune de miel, bien sûr que non. C'est au bout d'un certain temps, quand les choses se seront un petit peu tassées, à ce moment-là, commencer à découvrir certains défauts de leur mari. Et l'inverse, et ce n'est pas la même chose pour les maris d'ailleurs, par rapport à leur épouse. Combien de fois j'ai entendu ces phrases qui brisent le cœur de jeunes époux, hein, des gens qui sont mariés plus de 2-3 ans, et qui au confessionnal me disent, monsieur l'abbé, j'ai découvert certaines faiblesses de mon mari, certaines faiblesses de mon épouse, et si j'avais su ces faiblesses avant de me marier, je ne me serais pas marié avec telle personne. Et je leur dis toujours la même chose, je dis, madame, monsieur, il faut oublier ça maintenant, vous êtes marié, il faut faire marcher les choses. Bon. Vous n'avez pas vu ces défauts, vous êtes un imbécile, vous auriez dû voir ces choses-là et étudier très sérieusement le tempérament réel de votre époux, de votre futur époux, de votre future épouse, avant de vous marier. Maintenant vous êtes marié, le bon Dieu vous donnera les grâces pour arriver à tenir le coup avec ça. Et connaissez, et il faut, les fiançailles, c'est pas fait pour connaître les points forts et les vertus de votre futur époux, de votre future épouse. C'est fait pour connaître ses faiblesses. Est-ce que le tempérament de ma future épouse, de mon futur époux, est-ce que le défaut particulier de ma future épouse, de mon futur époux, est-ce qu'ils sont compatibles avec les miens? Oui, c'est très important ça, les goûts, les couleurs. C'est parfois les choses les plus compliquées à supporter dans la vie matrimoniale. Demandez aux gens qui sont mariés. Imaginez, enfin, c'est un exemple que je donne. Imaginez un jeune homme qui écoute du rap toute la journée et qui veut épouser une jeune fille qui écoute de la musique baroque toute la journée. Mais même s'ils ont toutes les qualités du monde possibles et imaginables, toutes les qualités possibles et imaginables, ça marchera pas. Ils seront malheureux comme des pierres tous les deux parce qu'ils n'ont pas eu tous les mêmes goûts. Vous voyez, c'est important les goûts. Si monsieur pense qu'à la montagne toute la journée, rêve de la montagne et que madame au contraire rêve de la mer toute la journée, ça va être aussi des mariages difficiles. Bon, certes, le bon Dieu nous demande aussi de faire un petit peu des partages. J'ai connu des familles qui sont comme ça. Le monsieur a dit, bon, ben, première année, on va en vacances à la mer, deuxième année, on va à la vacances à la montagne, comme ça, tout le monde est content. Bon, et puis on change comme ça, et puis, le bon Dieu travaille avec ces choses-là, vous voyez. Donc, attention à bien connaître, vous voyez, ces choses-là. C'est beaucoup plus important qu'on le pense. Donc, je insiste sur cette phrase. Le royaume des cieux se prend par violence. Et notre Seigneur dit bien, depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, ça veut dire que c'est toujours le cas. Le royaume des cieux se prend par violence et ce sont les violents qui s'en empareront. Et que celui des oreilles pour entendre. Soyez suffisamment intelligent pour ouvrir vos oreilles et comprendre ces choses-là. Étudiez votre tempérament. Si vous avez un tempérament colérique, par exemple, bon, en général, c'est défaut particulier sera du côté de la colère, du côté de l'impatience, évidemment. Bon, il y a bien sûr beaucoup de bons points des caloriques, des colériques, pardon. Le colérique est par nature quelqu'un qui est un bon chef. C'est un bon chef de famille et il travaillera comme très très fort pour pouvoir payer les factures de la maison. Il est sûr parce que c'est un colérique. Le sanguin, son défaut particulier, en général, tourne autour du mensonge. Parce que le sanguin est superficiel. Par contre, la qualité du sanguin, c'est la bonne humeur, la joie, la patience, etc. Le mélancolique, la grande faiblesse du mélancolique, c'est qu'il boude. Le mélancolique est un boudeur chronique. Il faut le savoir avant de se marier. Pas une fois que vous êtes marié depuis 10 ans, vous allez découvrir ça, c'est un peu tard. Par contre, le mélancolique est quelqu'un qui prend du temps pour les choses, qui peut être très patient avec les gens, et qui est surtout un penseur, quelqu'un qui pense droit sur beaucoup de choses. Un mélancolique, par exemple, n'a pas de mal pour prier. Un colérique a d'énormes difficultés pour prier. Et le phlegmatique a un énorme défaut, c'est la paresse, alors que au contraire, sa vertu particulière, c'est la patience. Vous voyez ? Donc il faut bien étudier toutes ces choses-là, justement, pour se connaître, avoir la connaissance de soi-même et bien lutter contre son défaut particulier. Voilà, donc nous continuerons cet évangile selon saint Matthieu au chapitre 11, verset 16. Nous allons terminer par une prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.